the band have just left town.
Bonjour, voilà, on est content de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette émission hebdomadaire de Comaguerre, qui veut dire, je le rappelle, comprendre et agir contre la guerre. Ce qui n'est pas une position, je le précise, pacifiste, c'est-à-dire critiquer la guerre pour ce qu'elle est et pour les facteurs et pour les personnes qui vivent de la guerre. C'est bien ça le fond du problème de société qui est en face de nous et d'une façon encore plus sanglante que d'habitude. À ce propos, donc, je profite du temps du début pour vous annoncer qu'on se retrouve demain soir sur les ondes de Radio Galère pour l'émission mensuelle thématique. Et cette fois, je serai à la recherche de l'idéologie nazie sous toutes ses formes. Et je résume très très rapidement, j'y reviendrai donc demain, l'idéologie nazie qui consistait à dire « je me désigne un certain nombre d'ennemis, les Slaves ». Les gitans, les juifs, les homosexuels, les personnes handicapées. Il y avait une liste très très large de personnes qui n'étaient pas considérées comme de bons à rien. Ceux-là pouvaient être tués à volonté. Et évidemment, il n'y avait pas de poursuite puisqu'on avait raison de tuer tous ces gens-là. Et on en a tué, il en a été tué beaucoup. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette idéologie nazie qui a été considérée comme enterrée à l'issue du procès de Nuremberg, je me souviens, donc un tribunal international a condamné une quinzaine de dirigeants nazis à l'exclusion de Hitler, qui s'était suicidé avant, à la peine de mort, et ils ont été exécutés. Bon. Et donc, on pensait que c'était la fin. L'exemple historique et le coup en homme et en horreur qu'il avait engendré serait suffisant pour que personne ne tente de recommencer la même aventure. Or, en fait, ce que nous verrons et ce que nous voyons sous nos yeux, et je développerai ça demain, c'est que les idées nazies n'ont pas disparu. Elles ont même été entretenues, gardées au chaud, j'allais dire, et je reviendrai sur les endroits où elles ont été tenues au chaud et les endroits où elles ont été conservées. Et en conservant ces idéologies, on a conservé des personnages ou les héritiers ou les descendants ou les petits-enfants de ces personnages-là qui ont recommencé à avoir les mêmes idées et à vouloir les appliquer. C'est bien ça le problème de la transmission de ces idées nazies sur lesquelles je m'arrêterai demain soir. Mais en attendant, passons à l'actualité plus immédiate. On parlait de Rafah tout de suite avant de commencer l'émission. Il faut savoir que hier, par exemple, je prends les derniers chiffres qui ont été sortis, la zone de Rafah, donc c'est la zone sud de la bande de Gaza, où la plupart des Palestiniens de la bande de Gaza sont aujourd'hui réfugiés. Alors, réfugiés, le terme est même tout à fait insuffisant. Ils sont dans une espèce de campement de la mort, sous des tentes, dans des conditions sanitaires, de nourriture effroyables. Et en fait, ils sont entassés là. On est à peut-être...
Sous la pluie, les boues...
1,2 million personnes qui sont entassées sur quelques kilomètres carrés à côté de la frontière égyptienne et encadrées par l'armée israélienne à droite et à gauche. Bon, ce qui s'est passé hier, pour bien montrer la politique du gouvernement de M. Netanyahou, c'est qu'il y a eu dans la journée d'hier lundi 50 attaques à la bombe donc, par l'armée israélienne et par l'armée de l'air israélienne ou par l'artillerie israélienne sur la zone de Rafah, sur cette espèce d'immense camp de réfugiés qui n'a pas de précédent dans l'histoire. On n'a jamais vu un camp de réfugiés de cette ampleur-là et dans des conditions aussi dramatiques. Il faut le savoir.
Et je voudrais dire quand même que Rafah, c'est territoire égyptien.
Non, de l'autre côté de la frontière.
Oui, de l'autre côté.
Ah ben les Égyptiens, Égyptiens, ils regardent.
Exactement, c'est dans le Sinaï.
Enfin, voilà, tout à fait.
Donc c'était.
Non, on sait effectivement que c'est là la frontière de la zone de Gaza et que de l'autre côté de la frontière, effectivement, on a l'Égypte qui attend. Alors, effectivement, l'Égypte, d'abord, elle n'a pas envie d'avoir tous les Israéliens, les Palestiniens chez elle. Et puis, deuxièmement, il y a effectivement une volonté farouche de beaucoup de Palestiniens de dire, de toute façon, ici, à Gaza, à Rafah, on est chez nous, on ne veut pas partir. Pas voilà. Plus qu'on a voulu partir des autres territoires depuis 1948, on ne partira pas. Parce que partir, c'est perdre la qualité de réfugié palestinien. C'est ne plus exister en tant que palestinien. C'est devenir un monsieur qui est là dans la nature. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut les critiquer. Vous avez peut-être entendu parler d'un couple palestinien installé dans une petite ville française depuis 5 ans, avec des enfants à l'école et tout, qu'on veut mettre à la porte, on veut les renvoyer chez eux. Renvoyer chez eux, ça veut dire qu'on va envoyer une famille avec des enfants à Rafah, s'ajouter aux millions d'autres. C'est même monstrueux, je le dis, qu'un préfet et qu'un ministre de l'Intérieur français osent penser à ça. Ils sont là depuis 5 ans, ils n'ont pas mis des bombes, ils vivent une vie tranquille, hein. Ils veulent vivre là parce que, effectivement, pour beaucoup de Palestiniens, ça a été la solution quand ça devenait insupportable chez eux, quand ils n'avaient plus de terre, plus rien, plus de quoi travailler, etc. Bon, mais de là à dire on vous renvoie au pire moment dans le pire des endroits de la planète, c'est criminel. C'est clairement criminel. Voilà, on a une espèce de phénomène d'écho dans les micros, mais ça va passer.
Ouais, c'est très bien.
Voilà. Oui, on a un écho. Voilà, c'est bon. Donc voilà, Rafah. Donc hier, 50 attaques dans la journée, 100 morts, 250 blessés. C'est la vie quotidienne à Rafah, c'est ça, c'est 100 morts, et peut-être plus demain matin. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même temps, il arrive, et c'est un point très très important pour la suite des événements, il arrive sans arrêt des bombes, des munitions pour l'armée israélienne qui n'en a plus assez, elle a déjà tout utilisé. Et donc il y a un pont aérien, il faut bien appeler ça parce que c'était. Alors il y a un pont aérien, je me souviens du pont aérien de Berlin en 1948, où là c'était la une des journaux, hein, les États-Unis sauvaient l'Allemagne à travers Berlin-Ouest, hein, et là on parlait pont aérien tous les matins. Hein, il est arrivé. Bon là le pont aérien, il existe, on n'en parle pas, mais ça veut dire que tous les jours, il y a des avions cargo qui arrivent avec du matériel militaire pour tuer ceux qui seront morts le lendemain à Rafah. Et dans ces avions cargo, il y a du matériel de guerre made in USA, fabriqué aux États-Unis, qui doit venir, je ne suis pas allé voir en détail, mais principalement des bases américaines qu'il y a en Europe, pas très loin, probablement en Allemagne fédérale, peut-être en Italie où il y en a beaucoup, pourquoi pas même en Turquie, parce que tout peut arriver en Turquie. Hein. Donc les bombardements, il y en aura encore demain, parce qu'il y aura encore demain des obus et des bombes venues des États-Unis. Ou de l'armée des États-Unis. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Et ça, on ne vous le dit pas. On vous dit, on vous montre des images, il y a encore eu des attaques. Mais ils font comment? Ça fait 3 mois que ça dure et ils ont toujours du matériel. Ils n'en ont plus. Mais le meurtrier, le vrai meurtrier, c'est celui qui fournit les armes. Ce n'est pas celui qui s'en sert à la limite. Celui qui fournit les armes, c'est le vrai coupable. L'autre, c'est qu'un agent, c'est qu'un exécutant des basses œuvres de l'Empire. Mais ce n'est pas plus que ça. Or ça, ce sujet-là n'est pas abordé, ou pratiquement pas abordé, et encore moins aux États-Unis. Alors, il est abordé aux États-Unis, mais par des groupes dissidents. Cette question-là devrait être au cœur de la campagne des présidentielles des États-Unis. Elle devrait être au cœur en disant, les États-Unis, s'ils ont la volonté d'être un pays respectable, comme ils souhaitent l'être, par ailleurs, hein, défense des droits de l'homme, etc., ils ne devraient pas faire ça. Et donc, le candidat qui dirait qu'on arrêtera de faire ça aurait une prime. Alors, paradoxalement, il semble que, vu le début de la campagne aujourd'hui, ce sera plutôt Trump qui tiendra ce discours que Biden. Et alors là, on peut se poser des questions, parce que Trump, par ailleurs, n'est pas un personnage exemplaire. Mais s'il tient là ce discours, il risque de faire basculer une fraction de l'électorat qui dit « Mais qu'est-ce... » Alors ça sera sur une base classiquement isolationniste. Qu'est-ce qu'on fait là au milieu, hein? De quoi on se mêle? Pourquoi on ne s'occupe pas de nos affaires? C'est la position classique de la partie de la droite américaine, la position isolationniste. Mais en même temps, il est clair que plus on approche du scrutin, donc on n'est plus très loin maintenant, c'est en novembre, plus on approche du scrutin, plus ça va devenir un critère très très important pour, alors j'ajoute, pour au moins la partie de l'opinion états-unienne qui est un minimum consciente politiquement. Ce qui ne veut pas dire la majorité du peuple américain, qui par ailleurs a été, on en parlera demain soir, a été sérieusement habitué à se distraire et à ne pas regarder en dehors de ses frontières. Bien. Ça, c'était un point important, souligner la responsabilité décisive des États-Unis. Et puis ça va se juger un peu plus tard, puisque vous savez que la Cour internationale de justice, donc dans son arrêt du 26 janvier, a retenu toute une série de critères en disant ça, c'est un critère de génocide en cours, ça, c'est un autre critère, il y en a 14, je crois. Toutes les cases étaient remplies, comme on dit, et ils ont dit, nous ferons dans un mois si effectivement Israël a revu sa politique génocidaire, hein, si elle a arrêté de faire toutes ces actions-là. Bon. Et effectivement, on est maintenant, donc on est le 13 aujourd'hui, dans 13 jours, ouais, la Cour internationale de justice se réunira et elle fera le point. Et effectivement, vu l'attitude du gouvernement israélien, et vu ce qu'ils ont fait encore et ce qu'ils font tous les jours à Gaza, ils n'ont pas prêt, ils n'ont à aucun moment esquissé un changement d'attitude. Donc tout porte à croire que le 26 février... ou le 27, le lendemain, je ne sais pas si l'arrêt sera rendu immédiatement, la Cour internationale de justice sera en capacité de juger qu'Israël a commis un génocide. C'est-à-dire avec un préavis en disant « Attention, vous êtes en train de vous acheminer vers le génocide, on ne veut pas le savoir », disent les Israéliens. Et à ce moment-là, la Cour internationale de justice dit « Vous l'avez commis, on vous avait prévenu, toutes les conditions étaient remplies, on confirme, vous êtes un pays qui commet un génocide ». Et donc, à ce titre, vous violez la Convention internationale sur les génocides, dont vous êtes un des premiers signataires.
Pourquoi la... Oui, je voulais ajouter que l'Algérie, elle porte plainte
aussi.
Aussi. Alors, ouais. Ça va faire...
Ben, ça fait un poids de plus, c'est-à-dire qu'au début, dans la première phase, il y a eu donc deux parties qui se sont affrontées, donc l'Afrique du Sud et Israël, avec chacun un appui, côté israélien l'appui allemand, et côté palestinien l'Iran.
Voilà.
Et après, aucun d'autres pays peuvent s'ajouter dans un camp ou dans l'autre.
Ouais, voilà, d'accord.
C'est ça qui se passe. Ça ne changera pas profondément la nature du jugement et son contenu. On le voit venir. Ouais, je vois pas. Sûr. Il faudrait que tout d'un coup, je ne sais pas, Netanyahu tombe sur la tête en disant « Demain matin, on arrête ». Mais enfin, on ne voit pas du tout venir. Et la véhémence de ses propos, le caractère caricatural et monstrueux de ses propos, ne laisse pas espérer quoi que ce soit dans ce sens-là. Bien Donc, sûr, il va vers la condamnation. En disant de toute façon, alors vous savez que la Cour internationale de justice n'a pas de bras armés pour faire exécuter ses jugements. Ceci étant, ça renverra la question à un niveau plus politique. Ça renverra la question au Conseil de sécurité qui, lui, est habilité, puisque c'est lui qui doit exécuter les jugements de la Cour internationale de justice s'il décide de le faire. Et donc, à ce moment-là, les États-Unis seront au pied du mur. Au pied du mur, ils devront dire... Est-ce qu'on met un veto ? À ce moment-là, on dit ben, ça veut dire continuer. Est-ce qu'on laisse faire ? Et à ce moment-là, ça veut dire que l'ONU s'engage dans l'opération. Alors ça veut dire quoi, l'ONU s'engageant dans une opération ? Ça veut dire envoyer des casques bleus. Ça veut dire envoyer des troupes financées par l'ONU pour séparer les belligérants. Donc ça, on change complètement de monde. Ouais. C'est très, très intéressant. Alors est-ce que Biden et l'équipe qui l'entoure sera prête à passer ce cap-là, qui est un cap politiquement extrêmement important ? On ne sait pas du tout. Mais on sait par contre que s'il s'entête dans l'opposition de veto, c'est là que je renvoie à la campagne électorale aux États-Unis, ils affichent comme ceux qui sont pour la poursuite du massacre.
C'est tout. Ah, c'est sûr. Ouais.
Et donc, effectivement, ça se payera d'une façon ou d'une autre, d'abord dans le prestige international des États-Unis, pour ce qu'il en reste dans une partie du monde, et ça se paiera peut-être au niveau électoral aux États-Unis, avec les limites que j'indiquais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a aussi là un immense lavage de cerveau qui est fait, et même s'il y a des zones de résistance, des intellectuels, des universitaires, des gens qui écrivent et tout, c'est pas forcément suffisant pour faire basculer une partie importante de l'électorat du bon côté, ce qui serait pour moi évidemment le côté d'arrêt de la guerre contre les Palestiniens. Alors tout ça se jouera dans un contexte lié avec d'un côté un personnage sénile, de l'autre côté un espèce de personnage incontrôlable qui dit aussi, lui, dans sa campagne, des énormités. Et donc, effectivement, on est assez mal à l'aise pour dire qu'on préfère l'un ou l'autre, puisqu'en fait, on n'a pas... D'abord, ça n'a aucune importance. Il ne faut pas qu'on s'empêche de dormir les uns et les autres en disant « Mon Dieu, Biden va être élu » ou « Mon Dieu, Trump va être élu », parce qu'en fait, ça ne changera rien au vote des citoyens États-Unis. Il faut qu'on soit observateur et qu'on soit observateur de la façon dont la République française se positionnera par rapport à la position de l'un ou l'autre des candidats. Et là, ça peut devenir intéressant. Ça peut devenir intéressant et ça va le devenir puisqu'en fait, normalement, la décision de la Cour internationale de justice, donc à la fin du mois de février, va intervenir en pleine campagne pour des élections européennes. Et donc là, on aura un champ où effectivement le citoyen français pourra s'exprimer par rapport au soutien de la France à la politique d'Israël et par rapport même au fait que la France, en ayant retiré son financement de l'ORA, est complice de génocide. Alors, elle est complice d'un génocide en préparation. À partir du jugement, donc du 27 ou 28 février, la France sera effectivement complice de génocide. Et là, ça change effectivement le contenu de ce qu'on peut mettre en jeu dans la campagne électorale et dans la position du gouvernement français, puis des différents candidats aux élections. Alors, on sait à ce propos, je le dis, puisque ça a été clarifié, ça l'était, mais c'est tout à fait clarifié, que la position du Rassemblement national est une position ouvertement favorable à Netanyahou. Et donc, c'est une position bêtement, j'allais dire stupidement anti-arabe, mais qui ne nous étonne pas d'eux. Hein, mais c'est tout. Alors,
ça a toujours été.
Ça a toujours été. Mais là, on a des manifestations évidentes de la sympathie du Rassemblement national pour l'œuvre épouvantable de Netanyahou et des sionistes. Bon. Donc, que ce soit... Alors, peut-être des électeurs se poseront d'autres questions sur ce parti, mais là, pour moi, il y a un critère tout à fait clair. Hein, dans la mesure où ce parti est pour la poursuite de la disparition des Palestiniens, ce parti est haïssable, je le dis. Ouais.
Le rôle de l'Inner-Roi, il se trouve aussi bien dans tous les pays arabes actuellement, puisqu'il y a des Palestiniens, des réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban, en Jordanie.
Voilà, c'est tout.
Et l'Inner-Roi, elle couvre tous ces mondes-là.
Tous les réfugiés, et il y en a donc, j'en parlais l'autre jour, tous les réfugiés, et il y a donc des gens qui ont été réfugiés dès 48 au moment de la Nakba, et puis il y a encore de leurs petits-enfants qui sont toujours réfugiés depuis 1948 dans des camps. Effectivement, il y a trois pays qui accueillent des camps officiels de l'UNRWA, c'est donc la Syrie, la Jordanie et le Liban.
Ouais.
Donc on sait que là, ils ont leur assure un minimum de vie, d'éducation, etc.
Alors
on
je me pose la question.
Oui, vas-y.
Est-ce que l'UNRWA, il joue pas un petit peu la politique israélienne? Alors, je me demande. Alors je me suis posé la question en disant, est-ce que l'UNRWA, en donnant aux Palestiniens, en leur disant, bon, ben, on vous aide, on vous donne des médicaments, on vous donne des produits alimentaires, et ça dure depuis des années et des années. Est-ce que ça aide pas vraiment
Alors, en fait, le raisonnement, on peut le tenir de la façon suivante. Quand l'UNRWA est décidée par l'ONU, c'est en 1949, c'est sitôt après la proclamation de l'État israélien.
Ouais.
Et ça démarre en 1950. Donc à ce moment-là, on peut dire que l'UNRWA évite l'horreur du massacre des Palestiniens. Elle leur donne une possibilité de vivre un certain temps en tant que réfugiés. Bon, ça, en 50, c'est un raisonnement tout à fait acceptable. Hein. Mais comme l'État palestinien n'a toujours pas vu le jour maintenant, on est à une espèce de maintien d'une situation dont il faudra évidemment sortir. Ce peuple ne peut pas rester un peuple de réfugiés pendant
sûr.
Un siècle. C'est pas possible. C'est évidemment pas possible. Alors je pense pas que l'UNRWA soit hypocrite, mais lancé à ce moment, puis c'est pas l'UNRWA, organisme de l'ONU, qui pouvait dire reconnaissez l'État palestinien. Donc ils faisaient leur boulot, ils disaient ben, occupez-vous à les former, à assurer un peu de soins sanitaires, un peu de ci, un peu de ça. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Et effectivement,
oui,
à terme...
effectivement, il y a eu des ingénieurs, il y a eu
Et effectivement, il y a même...
Alors,
chez les sionistes, on entend des gens qui disent l'UNRWA, on ne l'aime pas parce qu'ils ont formé des Palestiniens qui sont devenus, je mets entre guillemets, intelligents. Hein. Ça aurait été tellement bien dans le raisonnement colonialiste sioniste de dire, de toute façon, les Palestiniens, c'est des abrutis. Je dis ça cruellement, et c'était ça. Mais à partir du moment où, effectivement, dans les écoles de l'UNRWA, on fabriquait des gens qui devenaient qui infirmiers, qui médecins, qui tout ce qu'on veut, ingénieurs, etc., ça devenait insupportable pour les Israéliens, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il se créait là un potentiel intellectuel militant très très fort qui n'existe pas en 48. Ce potentiel n'existe pas, effectivement. En 48, on a cette image qu'on a continué à véhiculer du Palestinien sur son champ d'olivier avec son âne. Bon, c'est plus ça du tout, les Palestiniens.
Ah
c'est
non,
ça, c'est ça qui fait très très peur. C'est ça qui fait très très peur aux sionistes. Parce qu'en fait, ils ont affaire à des gens qui sont intellectuellement aussi capables d'eux. Et donc, ils sont en train de sortir. Et là, on est en plein dans le Franz Fanon. C'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir de cette population classée définitivement comme inférieure. Et ça, c'est insupportable pour le dominant. Oui, donc, on en est à, donc pour l'UNRWA, effectivement, mais c'est le mouvement, dans la mesure où il ne s'est rien passé sur le plan politique en matière de reconnaissance de l'État palestinien et de fabrication de l'État palestinien, l'UNRWA est obligé de continuer en disant « je ne vais, pas les laisser mourir de faim ».
De toute façon, ils sont financés par...
Voilà, par les donateurs.
Ouais.
Par les donateurs. Bon. Et ce qu'on disait l'autre jour, c'est que les donateurs ont beaucoup évolué, puisque maintenant, principalement, c'était, jusqu'à l'arrêt des paiements, c'était les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne. Mais ce qui est important à noter, je le faisais l'autre jour, c'est que les pays arabes, et en particulier les monarchies du Golfe, donnaient beaucoup d'argent et qu'elles en donnent beaucoup moins. Et ça, il faut l'expliquer, c'est-à-dire que ces monarchies du Golfe, qui sont des monarchies absolues, rétrogrades sur beaucoup d'aspects de leur politique, ces monarchies étaient un petit peu embêtées parce que les Palestiniens, ils les trouvaient trop démocrates, trop remuants, trop formés, etc. Et donc, après
et
tout...
ça doit les gêner énormément mais bien sûr, pour
bien
leur...
Sûr. Ouais, ben, bien oui, sûr, exactement. Parce qu'ils se disent, après tout, si les Palestiniens se mettent à dire aux citoyens d'Arabie Saoudite ou de Dubaï ou d'Abu Dhabi, mais vous supportez encore des monarques de cette qualité-là, effectivement, ça met en cause leur façon de gouverner.
Et il n'y a qu'à voir la Syrie qui est laïque.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que ça les gênait énormément. Ils ont financé les extrémistes.
On ne veut pas nous la montrer.
Voilà. Et excusez-moi, et qu'en est-il des donateurs, finalement ? Ils vont donner ou pas ?
Pour l'instant, c'est suspendu.
Okay. C'est suspendu. Pour l'instant,
ce qu'a dit l'UNRWA, c'est qu'elle a dit qu'à la fin du mois de février, elle n'aurait plus d'argent, donc elle ne pourrait plus payer son personnel. Le personnel survivant, puisqu'il y a quand même eu pas mal de morts dans le personnel de l'UNRWA. Hein. Et donc, effectivement, on peut dire le 1er mars, l'UNRWA s'arrête. Alors là, c'est la mort immédiate pour des centaines de milliers de personnes. Bon. On n'en est pas encore là, mais les échéances se rapprochent. C'est là-dessus
oui,
que je voulais assister.
Ça.
Les échéances se rapprochent. Et c'est des échéances qui, je le disais, c'est à 100 morts par jour, 200 morts par jour. C'est des échéances très, très lourdes. Hein, très, très lourdes pour le peuple palestinien.
Moi, je ne sais pas. Moi, j'estime que c'est trop assisté. Ils ont tellement assisté les Palestiniens que, bon, on se demande. Ouais.
Il faut qu'ils aient un État, c'est clair. Alors la dernière astuce de l'équipe à Biden, c'est de dire oui, l'État palestinien, c'est pas mal, à condition qu'il n'ait pas l'armée. Alors je trouve ça délicieux. Enfin, délicieux, si j'ose dire. Ça veut dire, faites un bantoustan, faites un énorme bantoustan de 6 millions de personnes. Hein. Alors, ils peuvent venir travailler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils s'administrent et tout, mais on ne s'en occupe pas. Mais surtout, ce ne doit pas être un vrai État. Le seul vrai État, c'est l'État colonial. L'autre, c'est un faux État.
Ouais.
On en est là de leur raisonnement.
Exactement, c'est le raisonnement. Ouais.
Alors, un petit mot sur les élections au Pakistan. Un sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Alors, ça se clarifie un petit peu en ce sens qu'effectivement, l'armée pakistanaise qui tient le haut du pavé et qui tire toutes les ficelles a trouvé un espèce d'homme de paille qui est un ancien élu, un ancien Premier ministre, qui était en exil d'ailleurs, qu'on a fait revenir pour être le chef de la majorité parlementaire qui n'a pas la majorité. Donc on a un monsieur qui représente un parti qu'on a sorti un peu de son tiroir et de sa naphtaline, qui s'appelle Nawaz Sharif. Et on va essayer de faire de lui un Premier ministre. Le problème, c'est qu'il n'a pas la majorité au Parlement. Ça, c'est intéressant. Et ce qui se passe, c'est que les candidats indépendants du parti de Imran Khan, parce que le parti de Imran Khan ayant été interdit, les candidats du parti n'ont pas pu se présenter sous l'étiquette du parti. Donc ils se sont présentés en individuel. Leurs électeurs savaient très bien qui ils étaient, ils savaient très bien d'où ils venaient, puisqu'ils étaient au parti d'Imran Khan trois jours avant le début le dépôt des candidatures. Ça, c'est pas un problème. Mais il se trouve que donc ils ont plus de voix dans l'Assemblée que n'en a M. Nawaz Sharif. Et le jeu, qui va être un jeu tordu, compliqué, va être de dire... on ne vous veut pas dans la majorité ou dans, peut-être dans circonvenir, dans corrompre un certain nombre pour qu'ils tombent du côté de Nawaz Sharif et donc du côté de l'armée. C'est pas fait du tout, ça se joue maintenant. Il faut savoir qu'il y a une forte protestation des électeurs de Imran Khan et de son parti qui se sont manifestés. Et je m'arrête, c'est un petit détail technique, mais c'est très intéressant parce que le parti d'Imran Khan a réussi à faire, avec l'intelligence artificielle, une fausse vidéo dans laquelle il encourage ses partisans à continuer la lutte. Alors, comment on fait une fausse vidéo avec l'intelligence artificielle ? Ben, le principe est assez simple. Vous prenez Imran Khan, on avait des quantités d'interviews de lui, avec des mots-clés qu'il avait prononcés ici-là. Donc c'était sa voix, son ton de voix et tout. L'intelligence artificielle permet effectivement de reconstituer un discours. Il est en prison, Imran Khan, il ne peut pas faire ça. Hein. Donc ils ont reconstitué un discours qui était un discours encourageant ses électeurs, hein, avec des morceaux, des mots, des applaudissements qui étaient pris dans toute une série d'enregistrements qui a été fait avant. Ouais, comme quoi, l'intelligence artificielle, ça peut servir intelligemment. Et donc ça a beaucoup surpris, mais ça veut dire qu'on en est à un niveau extrêmement pointu dans la campagne. C'est assez fort ce qui a été fait là, et c'est très très bien. Et ça veut dire que la partie donc du parti d'Imran Khan n'est pas perdue. Ça va se jouer dans les semaines qui viennent. Alors lui, je ne sais pas s'il sortira de prison, mais une bonne partie de la population est mobilisée, ce qui peut amener une partie de l'armée, elle aussi, qui était traditionnellement entre les mains des services des États-Unis, et la plupart des officiers généraux et supérieurs y ont été formés aux États-Unis, étant bien pris en main. Ce n'est pas du tout évident. On a eu des cas où, effectivement, un certain nombre de militaires de haut rang commençaient à dire qu'ils étouffaient sous la tutelle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Donc, ça peut effectivement produire une rupture.
Comme en Afrique, voilà, la France.
Tout à fait. Ouais. Au sein de l'armée, je ne l'exclus pas. Donc ça mérite d'être suivi.
Ouais.
Ce qui méritera de l'être, mais j'y reviendrai la semaine prochaine, c'est ce qui va se passer, je crois que c'est demain que ça se passe, c'est les élections présidentielles en Indonésie. Alors j'en dis deux mots pour annoncer, pour vous mettre en appétit à la limite pour la semaine prochaine. Le président actuel, qui était un président donc plus ouvert et sorti des griffes ou de la tutelle de l'armée indonésienne, qui a beaucoup de sang sur les mains, on le sait, hein, le massacre des communistes indonésiens est un phénomène connu aujourd'hui, a voulu essayer de donner la parole à tous les survivants des victimes du massacre. On parle de 500 000 ou 1 million de personnes, des militants communistes indonésiens, en disant ben, ils ont le droit, ils ont eu des ancêtres qui sont morts, qui ont été torturés, etc. Et ça n'a pas du tout plu à l'armée. Alors l'armée a d'abord fait savoir gentiment, ils ont dû exercer des pressions sur lui, et apparemment il est en train de passer un espèce d'accord politique avec un des principaux généraux meurtriers, qui s'appelle Prawano, pour qu'en fait ce soit lui qui gagne les élections présidentielles. C'est-à-dire qu'après avoir tenté de défaire cet abcès, de laisser la parole, d'officialiser que ce massacre avait eu lieu et que c'était l'armée indonésienne qui l'avait conduit, apparemment l'armée indonésienne a repris le dessus sur lui et peut-être elle va reprendre le pouvoir et elle va le donner à un des pires criminels de l'armée indonésienne. Alors j'espère que ce ne sera pas ça, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Et puis, ben avant de passer au morceau de résistance qui va consister en une interview de Vladimir Poutine, on va passer une petite musique de transition, puisque vous savez qu'il va se célébrer...
Abou Ali Poutine.
Il va se passer, donc il va se passer dans les jours qui viennent, l'arrivée donc de Manouchian et de sa femme au Panthéon. C'est très très bien, c'est très très bien. C'est un peu pénible comme d'habitude parce qu'à la fois Macron, comme il est toujours, est capable d'avoir la pire politique contre les immigrés possible et puis en même temps de regarder comme j'aime bien les immigrés puisque c'est moi qui décide de faire rentrer Manouchian au Panthéon. Ça fait partie des troubles mentaux du président de la République.
Mais il y a un moment qu'on en parlait de Manouchian, qu'on devait le...
Oui, mais ça, c'est lui qui l'a officialisé. Et ça veut dire qu'il est, j'insiste là-dessus, il est à la fois capable d'avoir avec Darmanin la pire politique sur l'immigration, et puis de dire, regardez comme j'aime les immigrés. J'aime les immigrés, j'allais dire cyniquement, tu préfères les immigrés morts. Hein. C'est ça ta vérité. Hein. Oh. Voilà. Donc on va entendre la fameuse chanson de Léo Ferré qui s'appelle « L'affiche rouge ouais. » en hommage... aux combattants, alors MOI, c'était les FTP, francs-tireurs partisans, section MOI, main-d'œuvre immigrée. C'est-à-dire, on l'entendra dans la chanson, des gens qui sont venus ici et qui sont morts pour la France.
Ah, ça, c'est bien. Ouais, je l'ai. Ouais.
Aragon, l'affiche rouge. Réclamer la gloire, ni les larmes, ni l'or, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, vous étiez servis simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe de nuit, hirsute, menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce que prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. nul ne semblait vouloir français de préférence. Les gens allaient pour vous sans yeux le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les morts le matin en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en se battant.
Voilà. Léo Ferré, que vous avez entendu chanter, cite aussi le prénom de Madame Manouchian, qui sera aussi intégrée au Panthéon en même temps que son mari. Voilà. C'était bon à rappeler. Ça a déjà été la même comédie avec Joséphine Becker. Ça continue, c'est-à-dire que le côté spectacle de Macron l'emporte toujours. Fait toujours croire qu'il a une autre politique que celle qu'il a, c'est-à-dire il se donne un spectacle de libéral, intelligent et tout, et la politique, c'est exactement le contraire. Donc on a affaire à une politique, à un homme totalement schizophrène qui a une main qui ignore ce que fait l'autre. Bon, ça, la France en souffre et elle continuera à en souffrir un certain temps, sauf changement évidemment nécessaire. Alors à propos de spectacle, ça me donne l'occasion de faire une transition, puisque vous savez que le président russe a reçu à sa demande, alors il en avait d'autres des demandes, mais il a prévu de la satisfaire celle-là, un journaliste américain très connu qui s'appelle Tucker Carlson, qui est un monsieur qui travaillait jusqu'au milieu de l'année 2023 sur les chaînes publiques plutôt républicaines, plutôt conservatrices, donc Fox News en particulier, qui était un très très grand journaliste des États-Unis, connu de tous les citoyens des États-Unis.
Exactement.
Alors, il avait commencé à avoir des désaccords avec sa chaîne, et il s'était séparé, donc il a monté son média à lui. Et il a donc été invité, il a demandé à être reçu par Vladimir Poutine, et il a été reçu effectivement à Moscou par le dit Vladimir Poutine, directement dans les locaux du Kremlin. Et c'est là que la transition se fait, puisque quand Tucker Carlson commence à lui adresser la parole, Monsieur le Président, Poutine, comme il sait l'être très sec, dit « Est-ce qu'on est là pour une comédie ou pour parler sérieusement ?» Et l'autre est un peu désarçonné, dit « Non, non, on va parler sérieusement ». Et c'est ce qui s'est passé, puis ça a duré 2h30. Hein. Alors, c'était très intéressant parce que Poutine, à cette occasion-là, disait « Le système médiatique occidental, on a compris, j'en parlais à propos de Macron, la comédie, je fais des effets, puis voilà, mais ça ne sert à rien, hein, et je mens autant de fois que nécessaire. » Et donc Poutine avait tout de suite mis « Je ne veux pas de ce type d'interview à l'occidental. » Il ne l'a pas dit, mais je ne suis pas là pour faire un spectacle. Je suis là pour parler avec vous, pour parler à quelqu'un qui va m'écouter, quelqu'un qui me considère comme intelligent, et à qui je vais expliquer un certain nombre de choses. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Alors ça a commencé par un discours que j'ai reconnu parce qu'il était souvent pratiqué par un ancien chef de gouvernement russe après l'ère soviétique qui s'appelait Evgeny Primakov, qui était un très très grand diplomate et un des chefs, disons, des meilleurs chefs de la diplomatie russe après avoir été chef de la diplomatie soviétique, et qui disait ce qu'il faut bien comprendre quand on est en train de parler de nos relations avec les États-Unis, c'est que nous sommes un vieux pays, que nous sommes là depuis longtemps. Et il ajoutait « depuis plus longtemps que ». Est-ce que je me fais bien comprendre ? Bon. Et effectivement, Poutine commence par ça. Il dit « je vous signale que la Russie, en tant que pays centralisé, unique, date des années 860, il donne une date de création de premier État russe centralisé. Bon. Première date. On est donc en 862 après Jésus-Christ. Alors effectivement, par rapport à Jefferson, à la déclaration d'indépendance, il y a beaucoup, beaucoup d'écarts. Et effectivement, c'est destiné à dire aux États-Unis, vous êtes arrivés nouveau sur la scène mondiale, mais il y avait beaucoup d'autres gens qui étaient là bien avant vous et qui ont une connaissance profonde, l'expérience historique, de ce qui s'est passé et de comment fonctionne la scène mondiale. Ça, c'est le premier rapport. Deuxième chose, il lui dit, après, on a simplement unifié la Russie dans une religion qui est le christianisme orthodoxe. Et donc on a fabriqué autour de la Russie, ça s'est un peu disséminé autour, mais c'est principalement le principal endroit où aujourd'hui encore il y a beaucoup de chrétiens orthodoxes. Il y a dans l'immigration, il y en a, mais c'était l'endroit. Ça c'est le deuxième facteur d'unification de l'État russe. On n'est pas tout à fait en 1000, on est en, je crois, 988. Ouais. Donc ça donne, là il insiste sur les racines. Les racines en disant voilà, ce pays... Le pays dont je suis le président aujourd'hui, c'est un vieux pays qui a vécu, qui est passé par des moments difficiles. Et il cite en particulier l'invasion mongole en disant « c'est un moment où on s'est divisé entre nous, où il y a eu des guerres intestines entre les responsables politiques et tout. Le résultat, c'est que le premier qui s'est pointé avec ses chevaux, il est passé. Hein. Ouais. On en a beaucoup souffert. Et donc pour nous, ça a été une leçon. L'unité, ça sert à quelque chose. » Bon, alors là, vous allez dire, il est en campagne électorale. Oui, ben, il va être élu, tout ça, ce n'est pas un souci. Mais rappelez qu'un chef d'État dise l'unité du pays, c'est un facteur de sa politique et de la réussite de sa politique, c'est quand même une évidence qu'il faut rappeler de temps en temps. Et après, il en vient un peu plus loin à parler de l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que l'Ukraine ? Bonne question, puisque évidemment, Tucker Carlson voulait lui demander qu'est-ce que c'est que l'Ukraine ? Alors là, il fait un morceau d'histoire. Alors, il le fait, et il le fait en lui disant, alors c'est très très gentil, il dit, écoutez, je vous raconte ça, mais je vous ai fait préparer les documents historiques qui confirment tout ce que je vais vous dire, vous pouvez les emporter, ils sont à votre disposition, je ne vous fais pas un cours de propagande, hein. Je maîtrise moi-même tout à fait clairement l'histoire de la Russie depuis 1000 ans, hein. Donc, vous pouvez me croire, mais de toute façon, tout ce que je vous dis est attesté par des documents, des sources officielles et tout. Je vous les donne. Bonne lecture, Monsieur Carlson, c'est ça que ça veut dire. Hein. Ouais. Et l'autre, effectivement, comprend. Il le sait, il a deviné. Donc, il le laisse développer. Et là, il explique tout un passage qui se passe beaucoup plus loin. Donc, on est dans les années 1600 à peu près, où il explique qu'à l'époque, la Russie avait été un peu poussée sur ses marges vers l'Est par le royaume polono-lituanien. Alors, polono-lituanien, c'est qu'il y a eu un grand royaume, très vaste en territoire, qui était mené par la Pologne et la Lituanie. Aujourd'hui, c'est pareil, mais à l'époque, c'était un seul royaume. Et à un moment donné, les populations donc, qui étaient à l'ouest de la Russie se sont trouvées sous la pression de ces polono-lituaniens qui rentrent chez eux. Et puis finalement, les polono-lituaniens ont imposé des conditions que ces gens-là n'ont pas acceptées. C'est-à-dire en particulier d'abjurer l'orthodoxie et de devenir catholique romain. Et ça, ça ne passait pas. Peu importe tous les débats qu'on peut avoir là-dessus, mais ça ne passait pas. Ils disaient « non, nous, on est orthodoxe et on veut le rester et tout ». Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le responsable de ce gouvernement de la partie ukrainienne, qui était un cosaque, donc en fait qui était très libre de ses mouvements, c'est un cosaque comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il était de fait un chef sur le territoire de la Russie, mais c'était lui qui gouvernait. Bon, il a dit, puisque les polono-lituaniens m'obligent à abjurer ma religion, ben, je vais demander à Moscou s'ils me prennent. Hein. Et effectivement, il s'est adressé à Moscou qui a dit, mais vous avez votre place chez nous, hein, vous êtes de langue russe, vous êtes orthodoxe comme la très grande majorité d'entre nous, il y a une église orthodoxe ici, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est un tournant qui se passe, on est en 1650 à peu près. C'est peu connu, enfin, on en parle peu. Alors c'est revenu quand on a commencé à discuter de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, mais pas trop. En fait, c'est ça le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui parlaient russe, qui étaient donc de religion chrétienne orthodoxe, qui ont dit ben, on préfère aller chez ceux qui sont comme nous. D'abord, ils parlent russe, alors les Polonais parlent polonais, les Lituaniens parlent lituanien, il y avait déjà une différence, et puis c'est notre pays. C'est notre pays. Et après, Poutine explique en disant « qu'est-ce que ça veut dire Ukraine ?» Alors il insiste, et ça reste encore vrai aujourd'hui, même s'il y a eu des mesures extrêmement violentes pour interdire l'usage de la langue russe sur le territoire de l'Ukraine, Poutine insiste en disant « mais il y a 98% des Ukrainiens qui parlent le russe, il n'y a pas de problème. Même s'il y en a qui parlent un peu l'ukrainien pour ne pas se fâcher avec leurs voisins, c'est autre chose, mais c'est la langue c'est celle-là. » Et puis les linguistes vous diront que l'ukrainien, c'est une langue dérivée du russe, mais pas très différente. Il y a des différences de sonorité, quelques lettres et tout. En fait, ça ressemble. Quand vous dites Vladimir à Poutine, vous dites Volodymyr à Zelensky, c'est la même chose. Hein. C'est le même prénom avec deux accentuations différentes. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Poutine, dans son interview, dit « Ben voilà, Ukraine, qu'est-ce que ça veut dire en russe ? Je vais vous expliquer. Ukraine, ça veut dire frontière. C'est la vérité. Hein. » Donc l'Ukraine, c'est la région frontalière de la Russie. Alors elle l'a toujours été, puis géographiquement, ça se voit sur les cartes, c'est la région frontalière. Point. C'est tout, c'est pas plus que ça. Et il insiste sur ce fait en disant, c'était la région frontière, on l'appelait comme ça, mais on parlait pas d'Ukrainien. C'est venu petit à petit qu'on dise Ukrainien. C'est ceux qui habitent au bord de la frontière. Comme on dirait nous, d'un citoyen qui habite Menton, c'est un quasi-italien, ce qu'il a été quelquefois, ou quelqu'un qui habite Perpignan, c'est un quasi-espagnol, parce qu'il l'a été pendant un certain temps. Voilà. C'est pas plus que ça. Et il disait, et là, il insiste beaucoup en disant, ben c'est de là que ça vient, l'Ukraine, c'est un pays frontalier. C'est un pays frontalier, c'est la frontière de la Russie avec l'Ouest. Et donc avec une ligne de séparation qui a été marquée au moment des événements de 1680 dont je vous parlais, c'est-à-dire c'est ni la Pologne, ni la Lituanie, ni encore moins plus à l'ouest. Et à propos de plus à l'ouest, Poutine raconte une anecdote personnelle. Il dit « Quand j'étais jeune fonctionnaire du KGB, puisqu'il a été jeune fonctionnaire du KGB, j'ai pris un jour une voiture et je suis allé me balader en Ukraine. Et je suis allé tout à fait à l'ouest de l'Ukraine, et à un endroit, je lisais des panneaux avec des panneaux indicateurs des ville avec deux langues, il y avait du russe et il y avait dessous une langue que je comprenais pas. Alors j'ai demandé qu'est-ce que c'est, on m'a répondu bien entendu en russe, on dit c'est du hongrois, parce qu'ici on est hongrois. Ah bon, ça fait partie des découpages, il y a ça. Et il dit donc c'est ça le problème des frontières, c'est que quelquefois on les trace pas au même endroit. Et le journaliste lui demande à ce moment-là, mais est-ce que vous en avez parlé à Orban quand vous l'avez vu? Il a dit, non, ça c'est des vieilles histoires, on ne va pas se fâcher pour une histoire pareille. Il faudra essayer de trouver des solutions satisfaisantes pour les gens qui veulent parler hongrois. Mais c'est tout, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. Donc il en revient sur cette histoire ukrainienne en disant, et il incrimine d'une certaine façon, ce mélange des parties occidentales de l'Ukraine, qui sont donc restés dans leur mentalité et qui sont restés physiquement pendant un certain temps, polonaises et lituaniennes. On a voulu mélanger, il le dit très clairement, on dit c'est Staline qui, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, fort de sa victoire, a dit « bon maintenant on va arrêter cette espèce d'État qui est coupé en deux morceaux inégaux, en gros il y a l'ouest du Dniepr où c'est plutôt Polonie et lituanien, et l'est du Dniepr qui est plutôt russe, qui est russe, qui l'est depuis longtemps ». Et donc Staline a dit « on va essayer de rassembler tout ça dans un seul État ». Pour qu'on arrête ces différences Alors, Staline le faisait en sachant que les polono-lituaniens, et une bonne partie d'entre eux, avaient été des massacreurs nazis. Hein. Et donc, il voulait essayer de passer par-dessus pour dire on les met ensemble, et puis il faudra bien qu'ils deviennent un peu moins fascistes ou nazis qu'ils n'ont été pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon. De fait, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, et on sent, pas dans cette interview de Poutine, qu'il en veut un petit peu à Staline. Il en veut un petit peu d'avoir tenté cette opération. Et au fond, moi j'ai plus de distance par rapport à ça, je ne suis pas russe, mais en même temps, Staline ne fait qu'essayer d'appliquer ce qu'a appliqué Lénine au moment de la création de l'Union soviétique. Quand l'Union soviétique s'est créée, il y a eu un congrès des peuples de l'Union soviétique à Bakou, donc en Azerbaïdjan aujourd'hui, qui a consisté à dire « nous allons choisir le même régime politique avec donc un parti social, un parti communiste qui va gouverner, mais on va respecter toutes les différences ». De langue, de culture, de religion. Alors, il y avait des gens qui parlaient le kazakh, d'autres qui parlaient le tadjik, etc. Puis des gens que, si vous les rencontrez dans la rue, vous ne pensez pas que c'est un russe. Hein, parce... Bon, pas du tout. Ce n'est pas du tout les mêmes ethnies, on pourrait dire, aujourd'hui. Et donc, cette idée, ce projet de Lénine de dire « on va créer un régime d'unité du peuple qui passe par-dessus toutes ces différences qui sont souvent séculaires, différence de langue, différence de couleur de peau, différence de tout ce qu'on veut, hein, pour essayer de rassembler tout ça dans un régime socialiste où tout le monde est pareil », c'est une idée que Staline a gardée en lui et qu'il a essayé d'appliquer en Ukraine. Bon, alors ça n'a pas marché. Apparemment, dans d'autres discours, Poutine lui en veut un petit peu à ce propos-là, mais je considère qu'au fond, Staline avait... était porteur de ce projet de dire on peut être sur un même territoire, avoir un projet de vie commune et un avenir commun sans avoir forcément la même langue, la même religion, etc. C'est un vieux problème qui est connu par exemple en Syrie, hein, où on mélange les religions, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bon. Alors, ceci étant, ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, Poutine dit à Carlson, dit, ben voilà, la situation est celle-là, on a affaire à des gens qui ne veulent pas être... avec les Russes, qui nous détestent, etc., et qui ont prouvé qu'ils étaient des nazis par tout leur comportement, les assassinats de masse. Alors, y compris, et c'est là que ça devient absolument extraordinaire et incohérent, c'est-à-dire que ces personnages, donc les nazis ukrainiens, puisqu'il y en a, il y en a même au gouvernement ukrainien, hein, comment c'est... Alors, Zelensky, on ne sait pas trop, il s'est rallié à ça, mais enfin, peu importe, la politique, c'est une politique nazie. Ces gens-là, en fait, ont tué aussi beaucoup de Polonais à l'époque, de Polonais de la résistance. Et donc, effectivement, c'est assez étonnant que les Polonais les revendiquent comme leurs amis. Et donc, Poutine décrit tout ça. Donc, il fait une espèce d'histoire complète depuis 800 après Jésus-Christ, jusqu'à 2014, jusqu'au coup d'État de Maïdan, pour dire, ben voilà ce que c'est l'Ukraine, c'est-à-dire ce morceau qui est un morceau manifestement pro-nazi, et puis le reste qui est un morceau, c'est la Russie, et c'est nos frères et tout. Mais il dit par ailleurs, on n'a rien contre les habitants de l'Ukraine en général. Ce qu'on n'aime pas, c'est les dirigeants nazis, c'est les responsables nazis. Et il dit, ce qu'on n'aime pas, c'est que, par exemple, les statues de Lénine soient démolies et qu'on mette à la place des statues de Bandera, le dictateur nazi ukrainien. Ça, on n'aime pas. Ça nous fait quelque chose. Hein. J'y reviendrai demain, d'ailleurs, abondamment dans l'émission. Bon, et ça, il l'explique très posément. Alors, c'est assez amusant parce que l'autre renvoie des questions, mais il écoute. Ça a duré 2h30.
Hein. Ouais, c'est long. Hein.
Oui, c'est très, très long. Il y a 28 pages. Et la suite des événements est intéressante parce que... Oh, oui, alors, non plus... Comme on va dire que je fais de la poutinolatrie, mais enfin, un chef d'État qui, assis dans son fauteuil tranquillement, discutant avec un monsieur, est capable de lui raconter l'histoire de son pays pendant 10 siècles sans faire d'erreur, en travestissant pas la réalité et tout, c'est quand même pas si courant. Hein. Nous, on est habitués à des hommes politiques qui ont tout réglé en 5 minutes. Alors effectivement, en général, ça marche pas, mais c'est trop vite fait, hein, qui n'ont pas de profondeur. Lui, il a de la profondeur historique. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé une partie de ce qu'il a développé donc devant Tucker Carlson. Il l'avait fait imprimer, c'était au milieu de l'année 2021, sur le site du Kremlin en Russie. Il est accessible à qui veut. Sur le site du Kremlin en Russie, il y a un document d'une 20aine de pages signé Vladimir Poutine où il reprend cette histoire de la Russie. Donc il n'a fait que lui redire ce qu'il avait écrit dans ce papier. Mais ça, il l'avait écrit donc au milieu de l'année 2021. Et il sentait, parce qu'il sentait bien ce qui était en préparation dans cet éclatement de l'Ukraine qui a eu lieu depuis. Et alors après, il aborde des sujets beaucoup plus contemporains. L'autre lui dit, est-ce que vous voulez négocier? Alors Poutine lui rappelle ce qu'il a dit. Vous savez que M. Zelensky a signé un décret disant qu'il était interdit de négocier avec les Russes. Ouais. Donc il a dit, voilà, moi je prends acte qu'il a signé ce décret. Le jour où il abroge le décret... On peut discuter. Nous, on a toujours voulu discuter. Il revient sur le fait qu'il y a eu des discussions très avancées à Istanbul ou à Ankara, je ne sais plus, dans l'un des deux, dans les jours suivant l'arrivée de le début de l'opération militaire spéciale, que ces pourparlers étaient très avancés, qu'il y a même, sur un résumé du protocole d'accord pour la fin de la guerre en Ukraine, qui a été signé par les envoyés du gouvernement ukrainien, donc du gouvernement de Zelensky, et qu'ensuite, ce qu'on savait, il confirme, mais M. Boris Johnson, un beau matin, est venu en disant « Non, non, il faut continuer la guerre. » Bon, ce qui fut fait. Donc Zelensky et son équipe ont obéi à M. Boris Johnson, qui n'était jamais que le porte-parole de la Maison-Blanche en cette occurrence. Alors peut-être un élément encore plus extrême que ceux de la Maison-Blanche. Bon, ça, le débat n'est pas très intéressant là-dessus. Ouais. Ensuite, il dit, bon, dans ces conditions, nous, on est prêts à négocier, mais pour l'instant, il n'y a rien à négocier, puisque l'autre ne veut pas négocier, on verra bien ce qui se passe. Ce qui est acquis, c'est qu'on a été obligé de se porter à la défense des populations russes, qui sont russes, russophones, orthodoxes majoritairement, etc., parce que le massacre était commencé. Et donc il a dit, là, on reconnaît bien ces pratiques nazies. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, qui n'a pas tout à fait la même religion, même s'il parle la même langue, on décide que lui, il est à éliminer, et on l'élimine. C'est ce qui avait commencé, il insiste là-dessus, depuis 2014, c'est ce qui était en cours. Et il dit, nous nous sommes beaucoup, beaucoup interrogés sur l'évolution des événements. On a eu à un moment donné espoir que les accords de Minsk, qui étaient des espoirs dans lesquels nous étions pas partie prenante, mais on disait que c'est comme ça qu'il faut faire, c'est-à-dire que le gouvernement souverain de Kiev décide de trouver un modus vivendi entre les populations de l'Est et les populations de l'Est, donc un gouvernement qui voulait réconcilier sa population ou les deux morceaux de sa population. On aurait bien aimé que ça marche. C'était ça, les accords de Minsk. Il a dit, on a compris, et avec beaucoup de peine, on a mis un peu longtemps à comprendre, parce qu'on n'imaginait pas à quel point les Occidentaux étaient hypocrites, mais il a fallu effectivement que M. Hollande et Mme Merkel disent que c'était juste pour gagner du temps, qu'on comprenne effectivement qu'il s'agissait effectivement de préparer l'élimination physique de tous les citoyens du Donbass. Ouais. Donc, tac. Après, il revient sur la question où c'est. Non, il revient sur la question du pipeline et des gazoducs avec l'Allemagne. Alors, c'est très amusant parce que c'est du Poutine tout pur. Il répond à Carlson, ben, effectivement, nous, on pense que c'est les États-Unis. Et l'autre lui dit, mais qui c'est? Et Poutine lui répond, glacial, c'est vous. Alors, on dit, non, ce jour-là, j'étais occupé, il répond, et Poutine éclate de rire, disant, mais je ne vous demande pas un alibi, M. Carlson. c'est pas vous, individuellement. Je dis, c'est les États-Unis. Mais ça, c'est du Poutine tout cru. Tout d'un coup, il est capable d'envoyer comme ça ce qu'on appellerait une vanne en français, et l'autre est déconcerté. Il dit, mais non, c'est évidemment pas vous, mais c'est des gens de chez vous. Poutine dit, c'est quand même navrant que l'Allemagne ne se rende pas compte qu'elle s'est mise elle-même dans de grandes difficultés économiques. Et il ajoute, ce qui est très très important pour la suite des événements, il y avait deux gazoducs. Le gazoduc 1 qui avait commencé à fonctionner il y a plusieurs dizaines d'années, et puis le gazoduc 2 qui était fini, qui a été un peu endommagé, ça c'est important qu'il le soit, il a été un peu endommagé, mais il suffit que l'Allemagne, puisque le tuyau arrive jusqu'en Allemagne, puis c'était ça, ça décide, il suffit que l'Allemagne décide de réouvrir le robinet et le gaz vient. Et il dit, mais si les Allemands ont décidé de se faire leur malheur tout seuls, qui puis-je ? Ils le savent très bien, ils le voient, leur personnel le voit, les ouvriers des usines qui ferment le voient, l'inflation en Allemagne, ça se voit à cause du gaz américain. Il dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire, hein? Le Nord Stream 2 a été juste endommagé. Il peut fonctionner du jour au lendemain si l'Allemagne le décide. Alors, l'Allemagne ne le décide pas parce que les États-Unis lui interdisent de le décider dans ce sens.
Ah, c'est sûr.
Voilà beaucoup d'éléments dans ce discours.
Ouais,
Et alors, c'est très intéressant parce qu'il paraît, moi je ne me suis pas rendu compte, j'ai lu quand même les 28 pages de l'interview, il paraît que ça a été très très peu mentionné en France. Alors que
très peu. Pas, oui. Hein. Voilà.
Aux États-Unis, il y a même des gens qui ont menacé M. Carlson, y compris Hillary,
aussi, c'est vrai.
Hillary Clinton. On était à parler d'emprisonnement, d'atteinte à la sûreté de l'État, etc. Bon. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il représente un courant qui existe aux États-Unis. Alors, il n'est pas très très fort aujourd'hui. Ce n'est pas le courant de Clinton ni le courant d'Obama et de tous ces gens-là qui ont tout fait pour mentir à l'Union soviétique, etc., et à la Russie ensuite. Mais il existe un courant de gens qui disent « Mais quel est notre intérêt à passer notre temps à essayer de bombarder la Russie ?»
ouais.
Et Poutine lui dit, en plus, il y a un moment très intéressant où l'autre lui dit, mais est-ce que vous avez l'intention d'envahir d'autres pays ? Il lui dit non, là, l'Ukraine, c'est un pays russe. Hein, et je souhaite que tous les Ukrainiens soient d'accord pour travailler avec nous, pas plus. Hein, il ne s'agit pas d'annexer, etc. Non,
ouais, ouais,
hein, non, il le dit très clairement. Mais il dit par contre, il faut aller au-delà de cette question-là, parce que ce qui se joue là, c'est pas. Il le dit à un moment donné. Il dit, vous savez, la Russie, c'est très très grand. Hein, on n'est que 150 millions pour nous occuper de ce très très grand territoire. Comment voulez-vous que moi, chef d'État, je sois assez stupide pour dire que j'en veux encore plus, hein ? Alors j'ajoute, moi, c'est les données. La Russie aujourd'hui, la Fédération, c'est deux fois la superficie des États-Unis. Hein ? Et il dit, mais est-ce que vous êtes un peu raisonnable en disant que je veux envahir tout là ? J'ai bien assez à régler mes problèmes à moi. Après, il parle de la Chine en
c'est
disant...
Ça, c'est vrai.
Ben oui, je vous signale que nous avons des milliers de kilomètres de frontières communes. Donc on a forcément des relations avec les Chinois.
Avec l'Ukraine.
Hein, et il dit, alors ça n'a peut-être pas plu aux auditeurs des États-Unis, il dit, vous savez, la Chine est une très très grande puissance, hein, et donc ça vous empêche peut-être de dormir, mais nous on sait que c'est une grande puissance, mais ce sont des amis avec lesquels on a effectivement beaucoup à partager, puisqu'on a une immense frontière commune et des intérêts communs sur la planète. Donc tout ça fait qu'on a affaire à un discours qui est remet bien les choses à leur juste dimension, qui coupe court, et ça c'est très embêtant pour les médias occidentaux et français en particulier, parce que on voit encore, vous pouvez le voir vous-même à l'occasion si vous regardez certaines émissions télévisées, des gens qui s'affolent en disant « Poutine va envahir la Pologne, Poutine va envahir la Hongrie, etc.
Bah, » Ils l'ont dit plusieurs fois.
Voilà. Hein. Or, il dit, c'est pas très réaliste, vous dites, on n'est que 150 millions, on a un territoire qui est gigantesque, on a 13 fuseaux horaires sur le territoire de la Fédération russe. Rendez-vous compte, hein. Bon, ça passe pas. C'est assez inquiétant, c'est-à-dire la qualité de ce discours de Poutine est assez inquiétante sur la mauvaise qualité de nos médias.
Hein. Ah ouais.
Alors, je reprends ça et ça va faire plaisir aux agents de la France, aux électeurs de la France insoumise, puisqu'il y a dans le Monde diplomatique de ce mois-ci un article qui dit que les médias français sont dans un état désastreux. Ils ne font plus leur travail. Là, on a souvent parlé de quatrième pouvoir, donner la parole à l'opposition et tout. Et effectivement, Mélenchon a insisté là-dessus dans une interview récente en disant « Mais on est un des pays, la France est devenue un des pays les plus rétrogrades en matière de liberté d'expression dans la presse ». C'est tout à fait important à savoir. Alors c'est parfaitement cohérent avec le fait que tous les gros médias, chaînes de télé, grands journaux et tout, appartiennent soit à la République française, donc appartiennent à Macron, hein, pour faire simple, puisque c'est ça que ça veut dire, soit à des grands milliardaires qui, d'une façon ou d'une autre, sont proches de Macron ou défendent leurs intérêts à travers Macron. Et donc, effectivement, l'espace de la grande information de masse est totalement stérilisé par ces deux clans qui sont au pouvoir en France. Et on est obligé, alors après, on va dire « Ah oui, mais vous croyez les réseaux sociaux ?» Mais heureusement, c'est la seule possibilité d'avoir un peu d'oxygène, la seule possibilité... Alors, il y a de tout sur les réseaux sociaux. Il faut savoir choisir, il faut avoir la tête un peu bien faite, mais on arrive à trouver des choses. Et puis en plus, on peut lire aussi ce qu'il y a sur d'autres réseaux sociaux que les réseaux sociaux français. Il y a d'excellents sites d'information.
Mais de plus en plus, les Français, ils ont compris que les médias qu'ils ont, c'est des menteurs,
voilà.
C'est des gens qui ne représentent pas tous les Français.
De très très loin.
Ouais, hein. De très loin d'ailleurs. Ouais.
Et donc ça, c'était une bonne façon de confirmer la façon dont Poutine a abordé les choses. Je ne me suis pas donné en spectacle, j'ai expliqué d'expliquer la situation. Et apparemment, M. Carlson a été convaincu de l'honnêteté des propos du président russe. Et ça, évidemment, ça va lui être reproché énormément. Mais je pense qu'on a un... Alors, ça paraît presque rien, un journaliste qui passe 2 heures avec un chef d'État. Et en fait, on est face à un événement de portée historique. C'est-à-dire qu'il est en capacité, avec ce discours et avec ce qui a été dit à ce moment-là, de faire réfléchir une partie de la classe dirigeante aux États-Unis pour dire est-ce qu'il faut qu'on continue comme ça ou est-ce qu'on ait une autre vision du monde que celle qu'on a essayé d'inculquer à l'ensemble du camp occidental, Europe comprise, parce que là, on est complètement à côté de la réalité et on ne peut faire que des sottises, y compris des sottises qui finiront un jour par nous coûter cher. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je parlais de l'Allemagne, c'est vrai aussi pour la France, c'est l'Europe en général qui a le plus souffert des réactions des États-Unis à la politique russe en Ukraine. Mais un jour viendra où ce sera peut-être les États-Unis, y compris les intérêts matériels et financiers des entreprises états-uniennes, qui seront impactés par cette politique-là. C'est ça qui est en jeu. Et comme quoi, je dis, 2 heures d'interview au Kremlin, à Moscou, peuvent impacter les rapports entre dans les grandes puissances du monde, puisque les États-Unis restent une grande puissance, et ils pourraient être une grande puissance exemplaire s'ils le voulaient. S'ils le voulaient, alors si la majorité des citoyens des États-Unis le voulaient bien, ça c'est encore un problème réel parce que effectivement tout le système médiatique que les États-Unis ont organisé, parce que tout se fait chez nous sur leur même modèle, a été organisé pour ce qu'on appelle les armes de distraction massive, c'est-à-dire riez bien, votez pour ceci, votez pour cela, amusez-vous, faites des jeux, faites l'Eurovision, hein, le reste est sans importance. Or en fait, et une forme de conclusion, si vous ne vous intéressez pas à la politique, elle, la politique, s'intéresse toujours à vous.
Je voulais simplement dire que dernièrement, le samedi dernier, j'étais invité par un prêtre qui avait bien sûr les gens qui fréquentaient sa paroisse. Et j'étais surpris de me demander d'expliquer la Palestine.
Et voilà.
Gaza, par exemple. Gaza, pourquoi tous ces acharnements, tous ces trucs? Et je me suis rendu compte que la plupart des gens ne connaissent pas l'historique de la Palestine.
Ce serait le rôle d'un journaliste.
Les accords Balfour, pourquoi, ouais. Et tout bien ça, sûr. Ils ne savaient pas. Et je les remercie m'avoir donné...
Donc il y a un vrai besoin d'information, mais effectivement ce que constate le monde diplomatique, c'est qu'on est dans un état très très grave de recul et d'appauvrissement de la démocratie en France. Merci monsieur
merci.
Macron. Merci Roselyne, ça c'est vrai, c'est sincère. Je ne dis pas merci Macron, mais nous l'avons, il faudra bien qu'on s'en débarrasse un jour ou l'autre.
On va s'en débarrasser.
Bonne semaine et à demain pour ceux qui pourront nous écouter.
Ah ouais, j'étais très surpris.
Et oui, parce que...